Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. À la veille de la fête de l'Assomption, il nous a donné dans les textes de ce dimanche une difficulté particulière. Et si vous lisez attentivement l'extrait de l'épître de saint Paul aux Galates, vous comprendrez pourquoi il était difficile parfois pour les théologiens, les prêtres, d'expliquer le lien entre la loi, le péché et la grâce, le pardon de Dieu. Et l'on comprend pourquoi il en est qui sont tombés dans l'erreur protestante, qui consiste à uniquement considérer la foi qui nous justifie, qui permet le pardon des péchés, en relativisant les œuvres, c'est-à-dire les actes de vertu, les regrets précis et particuliers qui coopèrent à ce pardon de Dieu. Toute cette querelle, eh bien, je ne la développerai pas dans une homélie, parce qu'une homélie doit être facile et simple. Toutefois, bien sûr, nous ne pourrons pas nous dérober. D'autant plus que notre Seigneur Jésus-Christ nous dit aujourd'hui de suivre la loi et en même temps, il nous donne sa grâce. Ainsi donc, pour simplifier les choses, il nous faut d'abord réfléchir sur ce qui se trouve dans la loi. Qu'est-ce qu'une loi ? Qu'est-ce que le fait de ne pas obéir, la désobéissance à cette loi, le péché et ses conséquences ? Est-ce qu'il y a une peine et est-ce qu'il y a une punition ? Et comment accomplir cette peine ? Comment cette punition s'applique-t-elle ? Et si nous pouvons y échapper ? Et comment ? Et l'exemple que nous donnerons plus particulièrement, c'est bien celui de la Vierge Marie, immaculée dans sa conception. Mais tout d'abord, lorsque nous sommes des êtres humains, et dimanche dernier, nous parlions de la prière, nous avons une relation avec les êtres intelligents. Je vous disais dimanche dernier que nous avons une relation avec nos parents, très vite. Même bébés, eh bien, nous savons qu'ils sont présents et nous communiquons avec eux. Nous communiquons avec eux de manière très simple quand on est bébé, mais toutefois, on demande, on obtient et nous avons les premiers refus de la part de nos parents. Nous avons la première sensation d'une loi. La loi, c'est une ordination de la raison en vue du bien commun qui est donnée par l'autorité légitime. La loi, c'est ce que l'on doit faire, l'attitude et les gestes que l'on doit poser pour faire le bien, pour être dans le bien. La loi, par exemple, d'un carrefour, c'est de suivre les feux rouges et les feux verts. Et de nos jours, d'ailleurs, le feu orange est sanctionné presque comme un feu rouge. Le feu orange vous demande de ralentir nécessairement. Le feu rouge vous interdit de passer. Le feu vert vous permet de passer. Et cela pourquoi ? Quel est le bien qui est recherché ? Le bien qui est recherché, c'est d'éviter un accident avec une rencontre malencontreuse et violente avec une voiture qui viendrait de l'autre côté, à droite ou à gauche de la route. Pour éviter cet accident, cette loi a été posée par un législateur sage. Cette loi est tellement universelle qu'il y a presque dans tous les pays, sauf dans certains, un feu rouge et un feu vert comme signe universel de passage. Alors, est-ce que Dieu se limite à nous donner le bonheur et à nous indiquer le bien par des feux rouges ou des feux verts? Est-ce que le fait de suivre les 10 commandements est aussi simple que de respecter un carrefour? Est-ce que dans certains cas, par exemple, vous êtes à 2h du matin dans un carrefour, vous pourriez passer au rouge parce qu'il n'y a à perte de vue personne, ni à gauche, ni à droite? Eh bien, cette loi est bien plus compliquée que le code de la route. Car ces 10 commandements, c'est l'amour, c'est la bienveillance profonde. Ce n'est pas un moralisme, ce ne sont pas des règles qui peuvent changer, qui peuvent être modifiées suivant les circonstances. Elles sont là en effet pour un bien très profond. Parler à notre Père, comme nous parlons à ceux qui sont présents autour de nous, c'est un grand bien. Ne pas l'insulter, respecter son nom, c'est un grand bien. Prier ensemble, parler ensemble à notre Père, c'est un grand bien. Respecter, honorer son père et sa mère, même s'ils nous ont abandonnés, même s'ils ont été mauvais et méchants avec nous, c'est un grand bien. Ne pas tuer l'innocent, c'est un grand bien, car le 5e commandement, bien sûr, ne nous empêche pas de nous défendre, et même fortement, en mettant hors d'état de nuire celui qui nous agresse. Respecter notre corps et celui du prochain est un grand bien. Respecter sa propriété, ses biens, c'est un grand bien. Et ne pas mentir permet à la société de vivre en paix. Mais voilà que, par exemple, pour le 7e commandement, il y a un grand bien qui dépasse la petite propriété. Si nous sommes en train de mourir de soif, nous ne pouvons pas garder l'eau. Il faut la partager avec ceux qui sont autour de nous pour que nous mourions de soif ensemble, tranquillement, entre frères et sœurs. Il y a une propriété universelle des biens. Et ceux qui ont suivi le parcours Zachée cette année ont bien compris cela. Toutefois, il faut un bien commun important pour pouvoir rendre commune la propriété. Sinon, on est dans le vol et on est dans la jalousie. Alors vous me direz, si Dieu a fait une vie humaine si compliquée, avec une loi si compliquée, comment véritablement aimer avec simplicité et le cœur léger? Comment ne pas subir la punition, puisque nous pourrions nous tromper? Car en effet, le péché et la loi sont sanctionnés par une peine. Et si on ne punit pas un enfant d'une manière ou d'une autre, puisque maintenant il vous est interdit de donner une gifle, eh bien, cet enfant ne sentira pas le mal qui est derrière la désobéissance. Le mal de la punition, la souffrance de la punition est peu de chose par rapport au mal profond qui s'ensuivra s'il continue dans cette désobéissance. Nous-mêmes, lorsque nous manquons de bonté ordinaire et quotidienne, lorsque nous ne savons plus sourire ou dire bonjour, lorsque nous sommes en querelle avec notre famille, nos frères, nos sœurs, une personne de notre famille, ce mal ronge profondément et nous laisse tristes à travers les années et nous laissera devant le Christ, à notre mort, devant notre jugement particulier. Et nous serons punis. Le purgatoire est une peine qui répare ces manques de courage et de force par rapport à cette bonté quotidienne. Oui, alors nous devrions avoir peur. Et ces 10 lépreux doivent voir le prêtre pour constater leur guérison selon la loi de Moïse. Et pourtant, c'est quelqu'un qui ne connaît pas toute la loi qui va revenir et qui va rendre grâce de sa guérison, de son pardon. Car en effet, la loi, les 10 commandements, cet amour, cette charité sont bien difficiles à accomplir. Et Dieu, dans sa bonté, nous remet notre dette gratuitement. Seulement, il y a une coopération, il y a une union particulière entre notre volonté libre et ce pardon. Comment vient ce regret, cette demande de pardon? Certains diront, et ils ont raison, que c'est à nouveau une grâce, donc nous n'aurions finalement rien à faire, rien à penser. Eh bien, dans cette union de notre volonté et du pardon, nous ne devons pas être paresseux. Lorsque nous recevons le pardon d'un être cher, parce que nous demandons pardon, nous présentons nos excuses. Cela nous libère, et cela est dans la volonté de Dieu. La Vierge Marie, elle, n'a jamais péché, mais elle a été préservée de la peine et de la punition du péché originel, qui provoque en nous le désordre de notre liberté et notre mort, la mort de notre corps, le vieillissement de notre corps est une punition pour qu'on arrête, que l'humanité arrête de pécher. C'est une grande gifle pour nous de vieillir et de mourir, une très grande gifle. Et ça, aucune loi ne pourra l'interdire. Mais cette gifle énorme d'un Dieu qui veut nous réveiller, cette gifle, il l'a épargnée à cette femme, à la Vierge Marie. Car en effet, il l'a préservée de la peine du péché originel pour qu'elle renouvelle l'humanité et qu'elle soit l'instrument de son incarnation et de son pardon. Pour que gratuitement, il meure sur la croix, qu'il offre son corps et son sang, comme à chaque sacrifice de la messe, pour nous offrir ce pardon gratuit. Voilà donc notre foi, notre espérance et la source de notre charité, comme dit l'oraison de ce jour. Oui, soyons heureux, soyons confiants, car ainsi nous pouvons voir Dieu, avoir l'espérance de le rencontrer, de vivre avec lui, de voir sa pensée éternelle, son Fils, Jésus, de voir dans cette vision spirituelle l'amour du Père et du Fils, même s'il nous est difficile de prier l'Esprit Saint. En Dieu, c'est une relation vivante, subsistante, éternelle. Nous pouvons parler à l'Esprit Saint. Eh bien, demandons à l'Esprit Saint de nous tourner vers la Vierge Marie pour arriver plus facilement à lui, pour arriver plus facilement au Père, plus facilement au cœur sacré de Jésus, par le cœur immaculé de Marie. Oui, si nous avons peur et si nous avons honte, si nous sommes un peu lépreux de temps en temps, eh bien, passons par la Vierge Marie. C'est une femme, c'est une mère, et son Fils l'a glorifié dans son corps et dans son âme. Nous le fêterons demain et dès les premières vêpres de ce soir, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.